إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on commence le cours numéro 34 dans la série des durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi par le Cheikh ou du Cheikh Mohammed du Cheikh Salih Al-Fawzan, pardon. Et aujourd'hui, on commence Babun fi Ahkam Al-Janaiz, c'est-à-dire le chapitre qui parle des règles en ce qui concerne Al-Janaiz, c'est-à-dire les funérailles. Et c'est le dernier chapitre parmi les différents points dont on traite dans le chapitre de la prière. Donc c'est-à-dire que c'est le dernier chapitre avant le chapitre qui suit, c'est-à-dire la zakat. D'accord? Toutefois, on ne va pas pouvoir finir aujourd'hui ce cours-là. Il va être divisé en deux, le cours sur les janaïs, sur les funérailles, on va le diviser en deux. Et on finira donc, on fera une moitié aujourd'hui, Inch'Allah, et l'autre moitié samedi prochain, bi'ithnillah. Donc, le Cheikh, il commence en disant, Inna shari'atana wa lillahi alhamd, kamilatun shamilatun li masalih al-insan fi hayatihi wa ba'da mamatih. Wa min thalika ma shara'ahu Allahu min ahkam al-jana'iz, min hin al-marad wal-ihtidar, إلى دفن الميت في قبره ومن عيادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. Donc le Cheikh il dit que parmi les choses qui font partie de notre sharia, Walhamdulillah, qui est complète, hein, cette charia qui est complète et qui est parfaite, et qui contient tous les bienfaits pour l'humanité dans sa vie, hein, pour l'être humain dans sa vie et après sa mort. Et parmi les choses qui comprennent les bienfaits qui sont dans cette charia, il y a les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées en ce qui concerne les funérailles. Depuis le moment de la maladie, c'est-à-dire depuis qu'une personne tombe malade, en allant jusqu'à son enterrement. Puis même après l'enterrement, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de cette personne et de ses responsabilités et des choses qui sont reliées à la mort de cette personne. Donc le Cheikh il dit comme exemple, il dit depuis la maladie de la personne jusqu'à l'ihtidar, c'est-à-dire lorsque la mort arrive, puis ensuite l'enterrement, lorsqu'on met le mort dans sa tombe, puis la visite du malade, on doit aller visiter cette personne lorsqu'elle est malade, et lorsqu'on la visite et lorsqu'elle est proche de la mort, on doit essayer de lui faire dire le kalimat shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ensuite, lorsque la personne est décédée, eh bien, on la lave, on doit laver son corps, puis on doit le mettre dans un linceul pour l'enterrer et faire la salat sur la personne avant de l'enterrer, bien sûr. Ensuite, l'enterrement. Et ensuite, lorsqu'on a enterré la personne, maintenant, il faut voir à qu'est-ce qui a rapport avec toutes les responsabilités de cette personne-là après sa mort. Comme par exemple, la personne qui a des dettes, il faut veiller à régler ses dettes. Et si elle a par exemple un testament où elle a légué des choses à certaines personnes, donc il faut prendre son testament en considération et distribuer les biens qu'elle a légués. Ensuite, il faut voir à la responsabilité de ses enfants. Si la personne a des enfants qui sont en bas âge, de prendre la charge, de voir qui va prendre la charge de ces enfants-là, et yani, de veiller à ce que quelqu'un s'en occupe, yani, parmi les gens qui sont responsables de ces enfants. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, et il dit: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدى مخالفا لهدى سائر الأمم مشتملا على إقامة العبودية لله على أكمل الأحوال وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته ويحمدون الله ويحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره ويسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك. Donc le cheikh il mentionne ces paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Zadul Ma'ad. Il dit: parmi les guidances du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des funérailles, eh bien, il dit que c'est parmi les plus parfaites des guidances, et que c'est une guidance qui est en opposition avec toutes les règles ou les traditions des autres peuples et des autres des autres religions. Et notre charia, elle nous a enseigné des règles qui comprennent ou qui ont rapport avec l'établissement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière ou de la façon ou dans l'état la plus complète. Et le cheikh il dit, ça comprend de montrer du bien ou de montrer de la bonté envers le mort, hein, et d'agir avec la personne d'une façon qui va lui bénéficier ou qui va lui amener du bien et yani, dans sa tombe et le jour de sa résurrection. Donc, parmi les exemples de ça, il y a le fait qu'on doit visiter la personne lorsqu'elle est malade, et lorsqu'elle est proche de la mort, lui rappeler de mentionner le shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah, et purifier la personne, et de la préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la meilleure état possible. Et yani, ensuite, les musulmans vont se tenir en rang pour sa funéraille, ils vont prier, ils vont glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont envoyer le salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont demander le pardon et la miséricorde, et ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et la miséricorde pour cette personne qui est morte. Et on va demander également à Allah subhanahu wa ta'ala de passer par dessus ses erreurs et ses fautes. Et donc par la suite également, on va aller à sa tombe et on va demander que Allah subhanahu wa ta'ala donne de la fermeté à cette personne qui vient d'être morte, hein, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de la fermeté dans la réponse aux questions de Munkar wa Nakir, hein, pour que la personne reste ferme lors de ces questionnements-là et que cette personne réponde par les bonnes réponses, hein. Et yani, on fait des du'as donc pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cette personne-là lorsqu'on visite sa tombe, comme on le faisait lorsqu'on visitait cette personne-là dans la dunya. Eh bien, on le fait également après sa mort, on lui rend visite et on demande pardon et on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour sa miséricorde. Et ensuite, on montre de la bonté envers la famille de la personne qui est décédée, ainsi que ses proches, et ainsi de suite, yani. Donc ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ensuite, le cheikh, il dit « وَيُسَنُّ الْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالِاسْتِعْدَادِ لَهُ بِالتَّوْبَةِ بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة. Donc le cheikh il dit que parmi les sunnah, il est bon de se souvenir et de mentionner souvent la mort et de se préparer ou de le préparer à la repentance de ses péchés et de remettre les choses qu'il a pris injustement aux gens, hein, et de se précipiter pour faire des bonnes œuvres avant que la mort nous tombe dessus, hein. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout à l'époque actuelle, parce que les gens ne pensent pas à la mort, les gens ne pensent jamais à la mort, et donc tout dans la société autour de nous, surtout en Europe ou en Amérique, tout autour de nous est établi pour qu'on ne pense pas à la mort. Et même dans les pays musulmans parfois, il y a tellement de distractions, tellement de choses autour de nous, il y en a qui nous font, que ça nous fait complètement oublier la réalité de la vie. Et une des plus grandes réalités de la vie, c'est qu'on va tous mourir. Et donc, parfois, on oublie même que la mort est proche de nous. Et donc, ça nous amène parfois à nous éloigner du but de notre existence, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut toujours faire attention à ça et se rappeler de la mort. Ensuite le cheikh dit wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akthiru min dhikri hadim al-ladhat rawahu al-khamsa bi asanid sahiha wa sahahahu ibn Hibban wal Hakim wa ghayrihima wa hadim al-ladhat huwa al-maut. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait souvenez-vous beaucoup de hadim al-ladhat, et hadim al-ladhat c'est la mort, donc ça veut dire souvenez-vous beaucoup de la mort, mentionnez-la beaucoup et souvenez-vous-en. Et ça c'est rapporté selon l'imam al-Tirmidhi, par l'imam al-Tirmidhi, al-Nasai, Ibn Majah et Ibn Hibban et Al-Hakim, et il est Hassan Sahih selon Cheikh Al-Albani. Donc c'est un hadith authentique. Et le Cheikh il dit وَرَوَى التِّرْمِذِي وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Ici, dans le cheikh, il dit que l'imam al-Tirmidhi a rapporté selon Ibn Mas'ud le hadith qui est attribué au messager sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh al-Albani l'a déclaré Hassan, ce hadith, donc il est bon. Et le cheikh il mentionne ce hadith qui dit ayez de la gêne par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire soyez gêné d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite qu'on soit jeûné de lui. Alors Ibn Mas'ud a dit, nous avons dit au messager d'Allah, nous sommes gênés, ou nous sommes gênés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, ou par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, c'est pas ça que je veux dire, mais là, quand je vous dis que vous devez avoir ou être gêné d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite qu'on soit gêné de lui, ou qu'on ait al-haya vis-à-vis de lui, haqq al-haya, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous préservez la tête et tout ce qui rentre dedans. Donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qui passe par cette tête, et le ventre et tout ce qui va rentrer dedans. Donc c'est-à-dire de faire attention à qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on voit. Donc que ce qui rentre dans notre tête et ce qui rentre par notre bouche et vers notre ventre, que ce soit toujours des choses halal et des choses bonnes. Après, وَتَذْكُرَ الْمَوْتُ وَالْبِلَى, c'est-à-dire que tu te souviennes de la mort, وَالْبِلَى. الْبِلَى, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vérifier qu'est-ce que ça signifie, mais je vais le prendre en note, inshallah. Puis, وَمَنْ أَرَدَ الْآخِرَةَ, celui qui veut l'au-delà, et il abandonne les parures de cette dunya. Et celui qui fait ça, alors ça veut dire qu'il a eu réellement de la gêne envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah mérite qu'on soit gêné de lui. Ensuite, le cheikh, il mentionne maintenant le premier point en ce qui concerne les règles de la janaza. Ok? Il dit premièrement, awwalan ahkamul marid wa al muhtadar. C'est-à-dire, premièrement, les règles en ce qui concerne la personne qui est malade et la personne que la mort lui arrive. C'est-à-dire, la mort est proche. C'est-à-dire, il est dans, comme on dit, la phase terminale, l'agonie. Alors, le cheikh, il dit, فَإِذَا أُصِيبَ الْإِنسَانِ بِمَرَضٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَيَحْتَسِبْ وَلَا يَجْزَى. نعم, و ويسخط لقضاء الله وقدره ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله والشكوى إلى الله وطلب الشفاء منه ولا ينافي الصبر بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب عليه السلام نادى ربه وقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Donc le cheikh, il dit quoi? Il dit que lorsqu'une personne est atteinte par une maladie, alors il doit être patient et endurant et rechercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il est affligé par cette maladie-là, et il ne doit pas s'affliger ou bien commencer à perdre espoir et s'affliger. Et non plus, il ne doit pas se mettre en colère contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et contre sa prédestination. Car il faut toujours se rappeler que peu importe ce qui nous arrive, que ce soit un accident ou une maladie, eh bien tout ça c'est toujours selon le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a rien qui sort de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a destiné pour nous. Donc le mu'min, il doit être satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa prédestination. Et le cheikh, il dit, il n'y a pas de problème d'informer les gens de la source de notre maladie, d'informer les gens de quelle sorte de maladie on est atteint. Et toutefois, on doit faire preuve de satisfaction pour le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne doit pas se plaindre excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on ne doit pas se plaindre aux hommes, aux êtres humains, aux créatures, mais uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit demander la guérison. On peut demander la guérison pour cette maladie-là. Et ça, ça ne veut pas dire que si on demande la guérison, qu'on n'a pas de patience. Certaines personnes pourraient s'imaginer que si on est malade, on doit endurer et ne pas demander la guérison. Et non, en réalité, le fait de demander la guérison, ce n'est pas contraire à la patience ou à l'endurance. Le cheikh dit qu'en réalité, ça c'est quelque chose qui est demandé de notre part, selon la charia, et qui est recommandé en fait. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ayyub, lorsqu'il a été affligé par une maladie et par toutes sortes de malheurs, eh bien, il a invoqué son Seigneur et il a dit dans le verset 83 dans Sourate Al-Anbiya, Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Un malaise m'a atteint ou un mal m'a atteint et tu es certes le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, yani, ça prouve que il a demandé, quand il demande quand même la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك حتى قارب بالوجوب به حتى قارب به الوجوب فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. شيخ الزي ici que يعني il n'y a pas de problème également de chercher à utiliser des remèdes ou des médicaments qui sont licites pour essayer de traiter ce malaise ou cette maladie qui nous a atteint. Et le cheikh dit que là, même certains des ulama sont arrivés jusqu'à rendre ça, c'est-à-dire de déclarer que de chercher à utiliser des remèdes et des médicaments, que c'est quelque chose qui est confirmé, et que c'est proche de l'obligation, que c'est même proche de l'obligation. Et le cheikh il dit qu'il y a des hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là qui affirment que il faut affirmer et confirmer les causes et les moyens, les causes et les effets et les moyens qui sont licites. Tout ça, c'est les causes et les effets et les moyens sont des choses qui ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait de certaines choses des causes pour d'autres. Et il les a créés de cette façon-là, et donc de prendre en considération ces remèdes, et de commander le traitement des maladies, ça ne vient pas en opposition avec le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple lorsque tu as faim ou lorsque tu as soif, si tu cherches à enlever ta faim et ta soif en utilisant de la nourriture, comme de la nourriture ou de l'eau ou quelque chose à boire pour enlever ta faim et ta soif, eh bien ça c'est pas non plus considéré comme étant quelque chose qui annule ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la nourriture et l'eau soient des choses qui enlèvent la faim et la soif, et donc ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait créé les choses de cette façon là et qu'il ait donné à ces choses-là le fait d'être des causes pour enlever ces malaises ou ces choses-là. Yani, donc, alhamdulillah. Et après le cheikh dit wala yajuz at-tadawi bi muharram. Il n'est pas permis de se traiter ou de prendre des médicaments qui sont haram, c'est-à-dire qui sont faits à partir de matières qui sont interdites dans l'islam. Lima fi sahih an ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. Ça c'est dans un hadith authentique qui est rapporté selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de remède pour vous dans ce qu'il l'a interdit. Allah n'a pas utilisé quelque chose d'interdit pour être un remède comme pour vous. OK. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit wa rawa Abu Daoud wa ghayrihi an Abi Hurayra marfu'an inna Allah anzala ad-da' wad-dawa' wa ja'ala likulli da'in dawa' fatadaw wa la tatadaw bi haram. OK. le cheikh il dit que ça c'est un hadith rapporté par Abu Dawood selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Toutefois ce hadith là m'avait échappé. Ça dit quoi? Ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la maladie et le remède. Alors, il a fait pour chaque maladie un remède. Alors, prenez le remède et ne prenez pas quelque chose de haram comme remède, c'est-à-dire comme médicament. Et dans un autre hadith, le cheikh il mentionne un hadith rapporté par dans Sahih Muslim. Selon Wa'il ibn Hajar, ça c'est l'imam muslim qui rapporte ça au sujet de l'alcool, il dit innahu laysa bidawa'in walakinahu da. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'alcool, ce n'est pas un remède, en fait c'est une maladie ou c'est quelque chose de, c'est un malaise. Après le cheikh il dit وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة. C'est interdit également de prendre comme remède quelque chose qui a rapport ou qui est en opposition avec l'aqida, avec notre croyance. Et le cheikh il mentionne des exemples de ça. Il dit من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو تلاصم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. Donc le cheikh il dit que comme par exemple des choses qui ont une contradiction avec l'aqida, parmi les remèdes que les gens ou les choses, les traitements que les gens peuvent essayer d'utiliser pour se guérir, eh ben il y a le fait par exemple d'accrocher un talisman qui est écrit à partir de mots qui ont une signification de shirk ou bien qui ont des noms inconnus, hein, comme les talismans des soufis. Certains d'entre les soufis, ils font des talismans et puis subhanallah ils mettent des noms qui sont comme majhoula, comme le cheikh dit, c'est des noms inconnus et ils prétendent que c'est des noms d'anges alors qu'en réalité non, c'est des noms de djinn parfois. Et le cheikh il dit wattalasim, que ce soit des talismans, des gris-gris, des colliers, tout ce que les gens peuvent porter comme qu'ils accrochent soit à un membre de leur corps ou bien qu'ils accrochent à leur cou ou autre, et ils croient par exemple que c'est des porte-bonheur ou que ça peut guérir d'une maladie ou que ça peut repousser le mauvais œil ou les malheurs ou des choses de ce genre, hein. Ah bon, ben toutes ces choses-là sont des choses qui sont en opposition avec l'aqida et ça amène les gens à accrocher leur cœur à autre que Allah subhanahu wa ta'ala en croyant que ces choses-là peuvent éloigner un mal ou amener un bien, hein, et ça rentre dans le shirk et c'est donc soit un shirk akbar ou un shirk asghar, c'est-à-dire un shirk mineur ou un shirk majeur. Et donc le shirk dit c'est soit que c'est un shirk ou bien quelque chose qui va amener quelqu'un à tomber dedans. Donc c'est soit un shirk majeur ou mineur. Et donc il faut s'éloigner de toutes ces choses-là. Et le cheikh dit wa kadhalika aidan at-tadawi 'inda al-munajjimin. Également d'aller essayer de se faire soigner chez les astrologues. Al-Munajjimin ou Al-Musha'wizin, il dit Al-Musha'wizin c'est qui? C'est les charlatans et Al-Kuhan, les médiums et les gens qui prétendent être voyants ou connaître l'avenir. والسحرة et les magiciens et ceux qui utilisent les djinns. Hein? Comme le cheikh il dit ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته. Donc le cheikh il dit que la croyance du musulman elle est plus importante que sa santé. Notre aqida elle passe devant la santé. Et donc on va pas aller se faire traiter chez ces gens-là. Et le cheikh il dit يعني وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين على رأس ذلك القرآن على رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. الشيخ الدي الله سبحانه وتعالى a fait pour nous des remèdes licites et bénéfique pour notre corps, notre raison et notre religion. Et à la tête de ces moyens-là et de ces remèdes-là, il y a le Coran al-Karim qui est un remède, et il y a également yani, les du'as qui sont légiférés par Allah et par son messager qu'on peut réciter et utiliser pour nous guérir. الإمام ابن القيم السطلي بعد الإمام ابن القيم الزين ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة وتأثيره أعظم من الأدوية ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit parmi les plus grandes formes de remèdes et de guérison qui sont possibles, c'est de faire le bien et de montrer, d'agir avec ihsan, hein, de se souvenir de la, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Et de se, yani, de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment, de faire du zikr et de faire des du'as et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir. Et donc, le cheikh, il dit que ça a un effet sur nous qui est plus grand que les remèdes qu'on peut prendre. Ça a un effet sur la guérison qui est plus grand que les remèdes qu'on peut prendre. Et mais, le cheikh dit, mais tout ça c'est selon la préparation de notre âme hein, et de son acceptation. Donc plus une personne est prête à, disons, accepter de se repentir et de faire toutes les œuvres d'adoration, et bien ça va faire en sorte que ça va avoir encore plus d'effet. Plus la personne va être sincère dans ça, plus ça va avoir un effet grand sur la personne. Et le cheikh il dit, il n'y a pas de problème pour quelqu'un de chercher à se guérir. Il dit voilà bas بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها. Cheikh dit qu'il n'y a pas de problème de chercher à se soigner par des remèdes qui sont licites et qui sont prescrits par des médecins qui connaissent bien les différentes maladies et qui savent comment les traiter dans les hôpitaux ou autres. Ok. Et il dit que également c'est une sunna de visiter le malade. Il dit وَتُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرْضَى لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وَذَكَرَ مِنْهَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ. Le cheikh il dit que donc comme j'ai dit c'est une sunna de visiter les malades, comme c'est rapporté dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim, et d'autres également parmi les livres de hadith, que 5 choses sont obligatoires pour un musulman envers son frère, et il a mentionné parmi ces choses de visiter le malade. Et ça c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim, comme j'ai dit tout à l'heure. فَإِذَا زَارَ سَأَلَ عَنْ حَالِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يدنو من المريض ويسأله عن حاله. Cheikh, il dit que lorsqu'on visite le malade, on lui demande de son état, on lui demande au sujet de son état. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rapprochait du malade et lui demandait au sujet de son état comment il se sent. وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك. الشيخ الجي ك la visite doit être jour après jour ou bien chaque deux jours et يعني sauf si le malade désire qu'on le visite tous les jours, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il dit que lorsqu'on va visiter le malade, on ne doit pas rester longtemps pour le fatiguer, excepté si la personne souhaite ça. Si la personne souhaite qu'on reste plus longtemps. Et le cheikh il dit wa yaqulu lil marid la ba's alayk tahurun insha Allah. Le cheikh il mentionne comme c'est rapporté dans un hadith dans Sahih al-Bukhari, rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit lorsque tu vas voir le malade, tu lui dis la bas tahurun insha'Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, tahur insha'Allah, c'est une purification pour toi insha'Allah, c'est-à-dire que par ce malaise ou cette maladie, Allah effacera ou enlèvera certains de tes péchés. ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. الشيخ il dit que tu dois essayer d'amener de la joie dans cette personne et tu fais des doigts pour qu'elle guérisse inshallah. Et tu fais le ruqya sur cette personne avec le Coran. En particulier avec la sourate al-Fatiha et al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad et al-Mu'awwadhatayn. Al-Mu'awwadhatayn, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Ces trois sourates. Et al-Fatiha. Après le Cheikh il dit, wa yusannu lil marid. ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير ويجب أن يوصي بما له وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. Cheikh il dit que c'est une sunna pour la personne qui est malade de faire un testament pour donner quelque chose de ses biens dans les bonnes œuvres. Et le Cheikh il dit que pour les bonnes œuvres, il dit que il doit également donner ou bien disons que c'est obligatoire de rembourser les dettes de la personne et de prendre de l'argent de cette personne-là pour donner à ceux qui sont inclus dans son testament à qui la personne a légué des biens et de régler également ses dettes et de voir qu'est-ce que cette personne-là avait chez lui, par exemple, qui font partie des choses que des gens lui avaient prêtées ou lui avaient mis chez lui en dépôt, ou bien par exemple des gens avaient donné certains, peut-être que certaines personnes avaient prêté à cette personne-là des biens, et donc veiller à ce que tous ces biens-là soient rendus au propriétaire. Et le cheikh il dit que ça c'est quelque chose qui est demandé par la charia, même de la personne qui est en bonne santé, eh ben il doit lui aussi prendre en note de son testament et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il demande comme, comment on dit, comme s'il met ses volontés, il écrit ses volontés dans une, sur une feuille de papier pour faire connaître à ses héritiers et aux gens qui vont prendre soin de ses affaires après lui, ils vont connaître ses volontés et qu'est-ce qu'il souhaitait faire, rien. Donc, il donne un exemple de ça. Il dit, les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده متفق عليه. C'est-à-dire que tout musulman qui a quelque chose à léguer ou à donner en héritage, plutôt à léguer et à donner dans un testament, alors il n'est pas permis pour lui de rester à dormir deux nuits sans qu'il ait écrit son testament auprès de lui. Donc ça veut dire que yani, il faut pas passer plus que deux nuits sans avoir écrit nos volontés et un testament yani. Comme ça, si la mort vient, ben tout sera prêt pour ce. Si la mort vient, tout sera prêt pour ce moment-là, et les gens sauront exactement ce qu'ils doivent faire avec nous et avec notre argent après notre mort. Donc, il faut prendre un papier puis écrire dessus qu'est-ce qu'on doit comme dette aux gens et qu'est-ce qu'on a comme, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme projet qu'on voudrait faire, par exemple, si on veut donner quelques-uns de nos biens pour des bonnes œuvres ou bien pour une sadaqa jariya, hein, une sadaqa qu'on veut laisser après nous qui va continuer à perpétuer des bonnes œuvres. Donc tout ça on prend en considération. Après le cheikh il dit wa dhakara al-laylatayn ta'akkudan la tahdid وذكر الليلتين تأكد لا تحديد فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت. شيخ il dit que c'est pas permis donc de laisser un long moment ou une grande période de temps passé, même si c'est donc de laisser une longue période de temps passer sans avoir écrit un testament. Le cheikh il dit que les deux nuits qui sont mentionnées dans ce hadith là, c'est pas pour limiter, mais c'est juste pour expliquer donc qu'il faut pas qu'on reste comme ça pendant longtemps sans écrire un testament. OK. Et même si c'est un court moment, il faut essayer de le faire le plus possible, le plus souvent possible, de faire un testament pour que, si la mort arrive, les gens vont savoir quoi faire avec nos biens, etc. Et garder ce testament-là ou ce papier-là auprès de nous. Parce que, comme le cheikh dit, on ne sait pas quand la mort va nous arriver. Et yuhsinu, ah oui. يحسن المريض ظنه بالله فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي به أنا عند ظن عبدي به. Il dit que il faut que la personne qui est malade ait toujours une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala il dit je suis tel que mon serviteur yani, pense de moi, je suis tel que mon serviteur pense à mon sujet yani. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith Qudsi rapporté selon Abu Huraira, et en fait c'est un hadith qui dit que si par exemple le serviteur il a hâte de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala aura hâte de le rencontrer également. et etc. Donc, et celui qui n'a pas de rencontrer Allah, ben Allah n'a pas hâte de le rencontrer. Et ça, c'est par rapport à, au fait que la personne qui meurt, si par exemple elle a fait beaucoup de péchés et tout, et donc elle n'a pas hâte de rencontrer Allah parce que justement elle sait qu'elle s'en va vers un châtiment. Et le contraire dans le cas de la personne qui a fait du bien, yani. Ensuite, le cheikh il dit ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله. Et lorsque quelqu'un est proche de la mort, eh ben c'est plus certain encore du fait qu'il sait qu'il va, il sent qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important de lui rappeler d'avoir des bonnes pensées au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit وَيُسَنُّ لِمَنْ يَحْضُرُهُ تَطْمِيعُهُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ عز وجل ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف وأما في حالة الصالحين وأما في حالة الصحة ويسن لمن حضره لمن يحضره تطمعه في رحمة الله ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف أما في حالة الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله. الشيخ الزكاة إلى سنة lorsque la personne et on est présent, et lorsque la personne est malade, eh ben, lorsque la mort est proche, il faut lui rappeler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui donner envie de cette miséricorde en Allah, de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que cette personne-là mette de l'avant le côté de l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que le côté de la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment-là, car yani, c'est quelque chose qui va l'aider à yani, espérer en la miséricorde d'Allah, de penser à sa miséricorde et à son paradis, etc. Et toutefois, lorsqu'on est en bonne santé, et c'est lorsqu'on est en bonne santé, il faut que le niveau de crainte et d'espoir soit à un niveau équilibré, dans le sens qu'il faut qu'il soit à peu près égal. Hein, c'est-à-dire que notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être à égalité durant notre vie. Parce que si on a plus de crainte, ça nous amène vers une situation où on a un désespoir parfois en la miséricorde d'Allah. Et ça, c'est quelque chose de mauvais. De même que si on a trop mis d'importance aux côtés de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et bien là, c'est le contraire, c'est qu'on a trop de on se sent trop en sécurité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on oublie ses ruses et on oublie que yani, il peut nous faire mourir n'importe quel moment. Et donc dans ce cas-là, il faut toujours prendre garde d'être à équilibre dans notre crainte et dans notre espoir, sauf au moment de la mort, on met plus d'importance sur la miséricorde. Et ensuite il dit فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. Le cheikh il dit que lorsque une personne est en agonie et que la mort va arriver, et la mort est proche, il est sunnah, ça fait partie de la sunnah pour celui-là de lui demander de dire la ilaha illallah, parce que, comme le cheikh va l'expliquer, la personne qui termine sa vie par la ilaha illallah, elle rentre au paradis. Donc, yani, le cheikh il dit وَذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يَمُوتْ عَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فَتَكُونُ خِتَامَ كَلَامِهِ فعن معاذ مرفوعا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ويكون تلقينه إياها برفق لا يكثر عليه لئلا يضجره وهو على هذه الحال. الشيخ الزي donc pourquoi on fait demander on, pourquoi on demande au, au, à la personne qui est près de la mort de dire la ilaha illallah, c'est parce que pour que la personne termine sa vie avec la parole de Al-Ikhlas et pour que ce soit la dernière de ses paroles, comme Mu'adh ibn Jabal a rapporté de façon qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui a été déclaré Hassan par le Cheikh Al-Albani et qui est rapporté par Abu Daoud. Et bien ce hadith, il dit que la dernière parole que tu dis soit la ilaha illallah, que ta dernière parole soit la ilaha illallah. وَيَكُونُ تَلْقِينُهُ إِيَّاهَا بِرِفْقٍ. Il faut que tu lui fasses dire cette parole là avec douceur, et tu ne répètes pas trop, ou bien tu lui dis pas de dire trop de choses ou de faire trop de choses pour pas que la personne soit confuse à ce moment là parce que lorsque la personne est dans l'agonie et tout, donc c'est un moment difficile pour la personne, et donc il faut pas trop lui en ajouter. Donc on lui demande seulement doucement de répéter la ilaha illallah sans l'énerver. Et le cheikh il dit وَيُسَنُّ أَنْ يُوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ, il faut le diriger vers la qibla. Et il dit وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَةَ يَاسِينَ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان. والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاء. Le cheikh il dit que il faut réciter surat Yassin auprès de lui, et il dit que c'est basé sur un hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud qui dit lisez sur vos morts, c'est-à-dire sur ceux que la mort sur ceux qui sont dans l'agonie de la mort, qui vont mourir, lisez sur eux la surat Yassin. Toutefois ça c'est un hadith daif qui est dans Irwa al-Ghalil, et c'est le hadith numéro 688, et il est daif. Donc c'est pas une preuve, et donc c'est pas une sunna de réciter sur la tiassine sur le mort. Toutefois, le cheikh il dit qu'est-ce que ça veut dire lisez Yassine sur vos morts. Le cheikh il dit ça veut pas dire de lire sur quelqu'un qui est mort, mais de lire sur une personne avant qu'elle meure. Il dit que pour la personne qui est morte, on ne lit pas rien sur elle. C'est-à-dire on lit pas le Coran sur une personne qui est morte. Il dit que de lire sur quelqu'un qui est déjà mort après sa mort, c'est une bid'ah. Contrairement au fait que lorsqu'on récite le Coran pour une personne qui est encore vivante mais qui est proche de la mort, alors dans ce cas-là, ça c'est une sunna. Et donc il dit que de réciter lors d'une janaza ou sur une tombe ou sur l'âme d'un mort, il dit tout ça fait partie des bid'ah, et Allah n'a pas fait descendre au sujet de ces choses-là aucune autorité et aucune preuve. Et donc c'est obligatoire pour les musulmans d'agir selon la sunna et d'abandonner les bid'ah. Donc ça y est pour la question de la personne qui est malade, et également qu'est-ce qu'on dit à la personne lorsqu'il est proche de la mort, malheureusement. Donc je vais m'arrêter ici, puis on continuera ça samedi prochain. On a déjà fait une bonne partie, déjà Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande qu'il nous fasse profiter de qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, et qu'il le rende bénéfique pour nous. Et c'est un rappel sans aucun doute pour nous, yani, de la mort et de la réalité de la mort qui peut nous atteindre à chaque instant. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et de nous faire mourir musulmans, et donc de nous faire entrer dans son paradis et de nous protéger de son châtiment. et de nous donner les récompenses qu'il a promis aux mu'minin dans son Coran, et de nous protéger des châtiments qu'il a promis aux kafirin. نعم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم